Alors, une parenthèse. Notre Dieu est bon, hein. Nous avons, c'est vrai, la tristesse de voir Keith nous quitter, mais c'est en partie atténué par la joie de revoir Joseph et Sean. Ils étaient au fond, donc j'ai eu la chance de pouvoir déjà les saluer. Vous aurez aussi ce privilège à l'issue de ce culte. Alors avant de commencer notre prédication, je vais prier pour remettre ces instants à notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que par elle, tu nous corriges, tu nous éduques. Mais Seigneur, aussi, tu nous fais du bien, tu nous encourages. Et notamment, Seigneur, tu nous encourages en nous dévoilant qui tu es et quel Dieu merveilleux tu es. Seigneur, je te prie pour ces instants, veuille m'aider à être fidèle à ta parole. Et veuille, comme Rebecca l'a prié, veuille faire que ton esprit applique à nos cœurs ce que nous entendrons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons faire une prédication dans le psaume 89, mais auparavant, avant d'étudier ce psaume, il nous faut quand même faire un rappel du contexte. Alors, nous allons aller assez vite, puisque Alex a déjà fait cela la semaine dernière, mais pour ceux qui n'étaient pas là, donc rappelons le contexte. Alors je vais peut-être demander à Rebecca si tu peux envoyer le premier slide. Donc le livre des psaumes est découpé en 5 livres, et ce découpage obéit à une logique, la logique suivante. Dans les psaumes 1 et 2, Dieu promet la venue d'un roi juste et puissant. Et dans le premier livre des psaumes, donc psaume 1 à 41, eh bien, on se demande si le roi David ne serait pas ce roi promis. Mais le deuxième livre, psaume 42 à 72, nous montre que non, ce n'est pas David. Mais peut-être ne serait-ce pas son fils Salomon, un autre grand roi. Malheureusement, le troisième livre dans lequel se trouve le psaume 89, troisième livre, donc psaume 73 à 89, eh bien, ce troisième livre enlève tout espoir. Le roi promis n'est ni David, ni Salomon. Alors la question se pose, que fait Dieu? Va-t-il oublier sa promesse? Nous ne le verrons pas dans cette série, mais par la suite, le quatrième livre rappellera au lecteur que Dieu a toujours été fidèle à ses promesses dans le passé, et le cinquième livre confirmera que Dieu est bien fidèle et que son roi va venir bientôt. Mais donc, notre psaume 89 est le dernier du troisième livre, le livre le plus sombre. Alors, sur un plan très pratique, le psaume 89 est un psaume assez long. Donc, d'ailleurs, je vais me munir d'une Bible. Ça pourrait nous servir. Donc, comme c'est un psaume assez long, nous allons faire la lecture au fil de la prédication. Mais d'ores et déjà, je vous invite à ouvrir donc les Bibles blanches à la page 397, parce qu'il est important de pouvoir suivre cette prédication, et notamment les lectures qui seront faites du psaume 89. Alors nous commencerons assez logiquement par l'introduction de ce psaume. Les 5 premiers versets que nous allons lire sont un condensé, un résumé du message du psalmiste. Donc je lis à la page 397, à partir du verset 1 de ce psaume 89. Le verset 1 qui nous apprend que c'est un cantique d'Ethan l'Ezrachite. Et à partir du verset 2, voici son introduction. « Je chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître ta fidélité de génération en génération. Oui, je le dis, la bonté est édifiée pour toujours. Tu fondes ta fidélité dans le ciel. » J'ai fait alliance avec celui que j'ai choisi, j'ai fait ce serment à mon serviteur David. J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour l'éternité. » Alors d'emblée, le psalmiste affirme ceci. Quoi qu'il advienne, Dieu respectera ses engagements parce qu'il est bon et fidèle. Quoi qu'il advienne, Dieu respectera ses engagements parce qu'il est bon et fidèle. Voici l'affirmation de départ. Oui, mais le psalmiste est gentil, mais il a sans doute grandi dans une bulle, parce que lorsque tout va mal, lorsque les choses, les circonstances de la vie sont dures, et la prière d'intercession nous a rappelé à quel point elles peuvent être dures, là tout devient moins simple. Pour ceux qui passent par la maladie, par les crises familiales, par le deuil, où sont la bonté et la fidélité de Dieu envers eux? Voyons ce que ce psaume nous dit à cet égard. Et alors je vous propose trois temps, qui correspondront donc à trois lectures. Dans un premier temps, versets 6 à 38, nous verrons que Dieu est bon et fidèle. Il s'engage totalement. Dans un deuxième temps, versets 39 à 46, Dieu est bon et fidèle, quelles que soient les circonstances. Et enfin, troisième temps, versets 47 à 53, Dieu est bon et fidèle, il honore ses promesses. Alors commençons par Dieu est bon et fidèle, il s'engage totalement. Et donc nous allons faire la lecture des versets 6 à 38, une longue lecture. Donc je vous invite à vous accrocher pour essayer de rester concentré, je pense que ça en vaut la peine. Verset 6. Le ciel célèbre tes merveilles éternelles et ta fidélité dans l'assemblée des saints. En effet, qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est redoutable dans la grande assemblée des saints. Il est terrible pour tous ceux qui l'entourent. Éternel Dieu de l'univers, qui est puissant comme toi? Éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ses vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Tu as écrasé l'Égypte, tu l'as transpercée, tu as dispersé tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartient le ciel, à toi aussi la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il contient. Tu as créé le nord et le sud. Le Tabor et l'Hermon acclament ton nom. Ton bras est puissant, ta main forte, ta droite élevée. La justice et le droit forment la base de ton trône. La bonté et la vérité sont devant toi. Heureux le peuple qui sait t'acclamer. Il marche à ta lumière éternelle. Il se réjouit sans cesse à cause de ton nom et tire gloire de ta justice. Car c'est toi qui fais sa beauté et sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force. Nous allons poursuivre la lecture, mais simplement pour dire que on voit dans ces versets que la bonté et la fidélité de Dieu sont exaltées dans la création, mais aussi dans l'histoire assez large du peuple d'Israël. Il fait référence à l'Égypte. Et maintenant, à partir du verset 19, on va avoir un angle qui va se resserrer pour nous montrer la bonté et la fidélité de Dieu, notamment dans le destin du roi David. Verset 19, « Notre protecteur est à l'Éternel, notre roi appartient au sein d'Israël. Tu as parlé à tes fidèles dans une vision, tu as dit, j'ai prêté secours à un héros, j'ai choisi du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé mon serviteur David, je l'ai désigné par onction avec mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera, l'ennemi ne pourra pas le tromper ni le méchant l'opprimer. J'écraserai ses adversaires devant lui et je frapperai ceux qui le détestent. Ma fidélité et ma bonté l'accompagneront. Et sa force grandira par mon nom. J'étendrai sa domination sur la mer et son pouvoir sur les fleuves. Lui-même fera appel à moi. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai toujours ma bonté. Et mon alliance lui sera assurée. Je lui donnerai une descendance éternelle, et son trône durera autant que le ciel. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas suivant mes règles, s'ils violent mes prescriptions et ne respectent pas mes commandements, je punirai leurs transgressions avec le bâton et leurs fautes par des coups. mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. J'ai prêté une fois serment par ma sainteté, je ne mentirai pas à David. Sa descendance subsistera toujours, son trône sera pareil au soleil devant moi, comme la lune, il sera établi éternellement. Le témoin qui est dans le ciel est fidèle. La bonté et la fidélité de Dieu. Ces expressions reviennent 15 fois dans ce psaume. Et donc cette bonté, cette fidélité se manifeste déjà dans la création, dans l'histoire du peuple d'Israël. Mais nous l'avons dit, plus particulièrement, versets 19 à 38, dans la vie du roi David. Et comment s'est manifestée cette bonté et cette fidélité de Dieu envers David ? Dieu a fait alliance avec David. Alliance. Le thème de l'alliance est très présent dans ce passage. Dieu s'est engagé irrévocablement envers David. Et cette alliance, c'est justement cette alliance qui manifeste la bonté et la fidélité de Dieu. Et cela de trois manières. Déjà par la nature de cette alliance. Versets 27 et 28. Dieu considère David comme son fils, comme son premier-né. Il instaure une relation père-fils avec celui qu'il a choisi. Mais cette alliance est aussi formidable par sa durée, une alliance éternelle. Versets 37 et 38, « Sa descendance subsistera toujours, son trône sera pareil au soleil devant moi, comme la lune il sera établi éternellement. » C'est un langage poétique, mais qui veut bien dire que voilà, cette alliance est éternelle. Mais le plus formidable, c'est le fondement de cette alliance. Sur quoi repose l'engagement de Dieu ? Sur les qualités de David ? Non, absolument pas. On voit que cette alliance débute au verset 20 et 21, et on y voit qu'elle repose exclusivement sur l'action de Dieu. Dieu déclare « J'ai prêté secours, j'ai choisi, j'ai trouvé, j'ai désigné David. » Le fondement de cette alliance, c'est la grâce. Aucun accent n'est mis sur David. En fait, David est passif, seul Dieu est actif. Il n'y a qu'une seule action de David, elle est au verset 27, et elle consiste justement à faire appel à Dieu. Une alliance fondée sur la grâce. Et la conséquence de cela est stupéfiante. C'est ce que soulignent les versets 31 à 35. Je pense que ça vaut le coup de les relire. Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas suivant mes règles, s'ils violent mes prescriptions et ne respectent pas mes commandements, je punirai leurs transgressions avec le bâton et leurs fautes par des coups. Mais je ne lui retirerai pas ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. Je ne violerai pas mon alliance. Le second livre des psaumes, nous l'avons dit, a rappelé que David a commis des fautes. Il a même pris le sang d'un innocent. Il a commis l'adultère. Et ses descendants ont fait pire. Ils ont rejeté Dieu. Mais Dieu, lui, est fidèle. Dieu reste fidèle à son alliance, malgré l'infidélité des hommes. Pourquoi ? Mais parce que l'alliance de Dieu repose sur sa pure bonté et il la maintient en fonction de sa propre fidélité. Alors quel enseignement pour nous ? Nous ne sommes pas le roi David, nous ne représentons pas le peuple, nous ne sommes pas des médiateurs. Cependant, en Jésus, Dieu fait alliance avec nous. Pour entrer dans cette alliance, il faut mettre sa confiance en Jésus, l'unique médiateur de cette alliance, car il l'a scellée par son propre sang. C'est cette alliance que nous avons commémorée en prenant la Sainte Cène ensemble. Alors il est vrai que cette alliance est différente de celle du roi David. Néanmoins, son fondement est le même, la grâce. L'alliance qui nous unit à Dieu repose sur lui-même. Elle ne dépend pas de nos performances. Dieu reste fidèle à son alliance, même si nous avons été infidèles. Elle a pour fondement sa bonté et sa fidélité. Elle est donc inébranlable, éternelle. Et peut-être me direz-vous, ok, le psalmiste célèbre la bonté et la fidélité de Dieu, c'est bien. On est content pour lui, mais s'il passait par la solitude, s'il passait par la maladie, s'il passait par la souffrance, serait-il toujours aussi démonstratif, aussi affirmatif ? Nous en arrivons à notre seconde partie. Dieu est bon et fidèle, quelles que soient les circonstances, et je vous invite à poursuivre notre lecture. Verset 39, et on lira jusqu'au verset 46. Et pourtant, et le psalmiste parle de Dieu, et pourtant tu as rejeté, tu as repoussé celui que tu avais désigné par onction, tu t'es irrité contre lui. Tu as rompu l'alliance avec ton serviteur, tu as déshonoré sa couronne en la jetant par terre. Tu as détruit toutes ses murailles, tu as mis en ruine ses forteresses. Tous les passants le dépouillent, il est un objet de mépris pour ses voisins. Tu as fortifié ses adversaires, tu as réjoui tous ses ennemis. Tu as fait reculer le tranchant de son épée, et tu ne l'as pas soutenu dans le combat. Tu as mis fin à sa splendeur, tu as jeté son trône à terre. Tu as abrégé sa jeunesse, tu l'as couvert de honte. Non, la vie du psalmiste n'est pas une bulle, et le psalmiste n'est pas épargné. En fait, ce qu'il vit est terrible. Là où le Dieu bon et fidèle avait promis un trône éternel, qu'est-ce qu'il voit ? Dieu a livré le pays à l'envahisseur. Jérusalem est tombée, ses murailles ont été détruites. Le temple même a été pillé. Le psalmiste regarde autour de lui et ce n'est que ruine et désolation. Au regard des apparences, Dieu semble avoir abandonné son alliance avec le roi David. Verset 40, tu as rompu l'alliance. Or, même s'il serait préférable de traduire par « tu as dédaigné ton alliance », le verset montre à quel point les circonstances sont déstabilisantes. Et pourtant, nous venons de le voir, le psalmiste consacre plus de la moitié de ce psaume à louer la bonté et la fidélité de Dieu. Précisément les deux qualités divines que les circonstances contredisent de manière flagrante. Pourquoi le psalmiste continue à célébrer la bonté et la fidélité de Dieu ? Le psalmiste ne s'arrête pas aux circonstances. Il se tourne vers le ciel. Il se tourne vers le Dieu qu'il connaît. Quel enseignement pour nous ? Comment réagissons-nous face aux circonstances difficiles ? La révolte, tout laisser tomber. La tentation, c'est de se concentrer sur les circonstances immédiates. Notre tentation, c'est d'être focalisé sur nos vies et de ne penser à Dieu que de manière accessoire. Être focalisé sur ce qui nous arrive plutôt que sur la personne de Dieu. Face au malheur, disons-le, l'incompréhension est légitime. Nous pouvons même interpeller Dieu et nous allons voir que c'est ce que va faire le psalmiste. Mais prenons exemple sur le psalmiste. Face au malheur, gardons confiance dans la bonté et la fidélité de Dieu. Souvenons-nous de son alliance. Remémorons-nous ses actions passées. Les circonstances fluctuent, mais Dieu ne change pas. Il est bon et fidèle. Terminons en voyant que Dieu est bon et fidèle parce qu'il honore ses promesses. Nous lirons du verset 47 jusqu'à la fin de ce psaume. Jusqu'à quand, Éternel, resteras-tu caché ? Jusqu'à quand ta fureur brûlera-t-elle comme le feu ? Rappelle-toi quelle est la durée de ma vie et pour quel néant tu as créé tous les hommes. Quel homme peut vivre sans voir la mort ? Qui peut sauver son âme du séjour des morts ? Où sont, Seigneur, tes bontés d'autrefois, celles que dans ta fidélité tu avais promises par serment à David ? Souviens-toi, Seigneur, de la honte de tes serviteurs. Souviens-toi que j'ai la charge de tous ces peuples nombreux. Souviens-toi des insultes de tes ennemis éternels, de leurs insultes contre les pas de celui que tu as désigné par onction. Béni soit éternellement l'Éternel. Amen. Amen. Juste une parenthèse pour dire que le verset 53 est là pour marquer la fin du livre 3, et sans doute qu'il n'était pas présent dans le psaume 89 lui-même. On ferme la parenthèse. Alors nous l'avons dit, le psalmiste garde confiance en Dieu, même au sein des circonstances douloureuses. Et cette confiance se manifeste par la prière. Il se tourne vers Dieu pour intercéder. Alors, il ne fait pas semblant que tout va bien, au contraire, tout va mal. Il exprime sa souffrance, sa faiblesse. Il rappelle à Dieu qu'il est un Dieu bon et fidèle. Il rappelle à Dieu les promesses qu'il a faites, l'alliance qu'il a passée. Mais il le fait sans colère, ni doute, sans amertume ni rancœur. Et c'est vraiment admirable parce que à son époque, il y avait de quoi douter. Dieu avait promis de maintenir la lignée de David éternellement, mais cette royauté avait été jetée à terre et exilée. Comment Dieu allait-il honorer sa promesse ? Nous avons un énorme avantage sur le psalmiste, nous qui vivons en 2014. Nous savons en effet, parce que nous avons la fin de l'histoire, nous savons en effet que Dieu a été fidèle à sa promesse envers David, et même au-delà de tout ce qui pouvait être attendu. La prière d'intercession du psalmiste a été exaucée par Dieu, mais des centaines d'années plus tard. Dieu honore sa promesse en Jésus. C'est l'évangéliste Luc qui nous rapporte ceci. Lorsque Dieu envoie un ange pour annoncer à Marie qu'elle sera enceinte, voici ce qui est écrit. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur donnera le trône de David. Lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il règnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Jésus est le descendant de David. Il est le roi juste et puissant, promis par Dieu. Et son trône n'a pas de fin. Notre Dieu honore ses promesses. Alors quel enseignement pour nous ? Nous avons tous parfois le sentiment d'être abandonnés par Dieu. Ce psaume nous appelle à dire à Dieu nos souffrances, à intercéder pour nous-mêmes et pour les autres, à ne pas nous détourner de Dieu, mais au contraire, à nous confier en lui, car il est le Dieu qui honore ses promesses. Mais comment faire confiance lorsque tout va mal ? Le psalmiste a regardé à Dieu. C'est là qu'il a puisé sa confiance. Il en va de même pour nous. Regardons à Dieu et regardons à la croix. Cela a été dit lors de la présidence, la croix est la preuve parfaite de la bonté et de la fidélité de Dieu. À la croix, Dieu nous donne le roi victorieux dont nous avions tant besoin. Et quel roi ? Dieu lui-même. Et quelle victoire ? La victoire sur le péché, sur la mort. Une victoire définitive et complète. Dieu est fidèle. Il tient promesse envers nous. Il ne nous a pas promis l'absence d'épreuves. Il ne nous a pas promis un travail, un mari, la santé. Non. Il nous a promis bien plus. Sa promesse, c'est le pardon de nos péchés, la vie éternelle auprès de lui. Sa promesse, c'est que nous lui appartenons. Il est notre Père et il nous aime. Dieu veut le meilleur pour nous et il nous l'accorde en Jésus. Alors, il est temps de conclure. Ce psaume nous rappelle deux choses sur Dieu. Je pense qu'il nous encourage à faire deux choses. D'abord, les deux choses que ce psaume nous rappelle sur Dieu, c'est que Dieu est bon et fidèle. Et il l'a prouvé en Jésus. Ensuite, c'est que sa bonté et sa fidélité ne dépendent pas de nous, fort heureusement. L'alliance qui nous unit à Dieu repose sur lui. C'est lui qui nous a choisis et c'est lui qui nous gardera en lui. Mais ce psaume nous encourage aussi à faire deux choses. D'abord, à intercéder auprès de Dieu lorsque ça va mal, mais à le faire avec humilité et avec confiance. Ensuite, ce psaume nous invite à regarder à Dieu plutôt qu'à nos circonstances. Notamment à regarder à la preuve que Dieu nous a donnée de sa bonté et de sa fidélité. Regardez à la croix. Je vous invite à la prière pour terminer. Notre Dieu, nous voulons célébrer ta bonté et ta fidélité. Par nous-mêmes, nous ne méritions rien, si ce n'est ta colère et ton juste jugement. Et pourtant, tu nous as envoyé ton Fils Jésus. En lui, tu nous as donné le grand roi, juste et puissant, que tu avais promis. Un grand roi qui nous a libérés de l'esclavage du péché, un grand roi qui nous a ramenés à toi, un grand roi qui nous a réconciliés avec toi. Désormais, nous sommes sauvés, nous avons le privilège d'être tes enfants. Seigneur, nous sommes dans tes mains, dans les mains d'un Dieu bon et fidèle. Seigneur, que les épreuves, que les circonstances parfois si douloureuses de nos vies ne nous éloignent pas de toi. Ne permets pas au doute, à la colère, au désespoir de s'immiscer dans nos cœurs. Seigneur, garde nos pensées rivées sur toi, sur la croix. Tiens-nous fermement entre tes mains, bon Père céleste. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.